Bonsoir et bienvenue dans un monde nouveau, l'émission des remises en question. Qui domine qui? C'est la question qu'on va se poser ce soir. Nous avons, nous autres, êtres humains, une fâcheuse tendance à penser que nous pouvons dominer la nature et à nous croire supérieurs aux animaux sauvages. Pauvres fous que nous sommes, nous prétendons contrôler leurs espaces de vie et avoir sur eux le droit de vie ou de mort.
Comment pourrait-on vivre sans les éléphants, les animaux de tous les continents?
Dans son dernier ouvrage passionnant et stimulant, la philosophe Joëlle Zask nous invite à remettre en question cette supposée domination à travers cette question: que faire si vous croisez la route d'une bête sauvage? De domination et de désir, il sera question dans la deuxième partie de l'émission. Qui domine qui dans une relation passionnelle? Peut-on librement consentir à son aliénation amoureuse? Daniel Arbid nous invite à remettre en question nos présupposés dans son dernier film, magnifique, Passion simple, librement adapté du roman d'Annie Ernaux, sorti en 1992.
On croit toujours que la passion, ça enlève toute lucidité, et aussi que si on est trop lucide, on ne peut pas vivre une passion. Moi, je crois au contraire que c'est dans l'excès de lucidité qu'on peut trouver vraiment la plus grande jouissance.
La réalisatrice Danielle Arbid et l'actrice Laetitia Doche sont nos invités ce soir.
France Inter. Sonia Khironi. Un monde nouveau.
Moins de prétention, plus de passion. On s'enchaîne et on se déchaîne pour se frayer un chemin dans la jungle du monde nouveau ce soir sur France Inter. Talk About It, morceau issu de l'album qui sort demain, Loving in Stereo du groupe britannique Jungle. Dans la jungle, mais aussi de plus en plus souvent en ville, Que feriez-vous si votre route croisait celle d'une bête sauvage? Cette question, la philosophe Joëlle Zask se la pose dans un petit livre passionnant, Face à une bête sauvage, aux éditions Premier Parallèle, un guide informé et amusant qui donne des conseils très pratiques sur la meilleure manière d'éviter une attaque de corneille ou une morsure de serpent et qui nous incite plus généralement à nous interroger sur notre place, à nous, les humains, parmi les différentes espèces qui habitent cette planète. Bonsoir Joëlle Zask.
Bonsoir.
Vous enseignez la philosophie à l'université d'Aix-Marseille. Et ce livre, il est parti d'une expérience assez désagréable que vous avez vécue à Rome, une rencontre avec un chien errant.
Oui, c'était une rencontre désagréable dans la mesure où je me suis rendu compte que je ne savais pas du tout quoi faire face à ce chien errant. Et mon ignorance m'a, d'une certaine façon, assez surprise et suffisamment choquée pour que je me lance dans une espèce d'exploration de la redécouverte des gestes qu'il faut savoir pour faire face à une attaque de bête sauvage qui s'avère vraiment plus forte que moi.
Et vous écrivez, face à une bête sauvage, nous qui pensons au moins inconsciemment dominer la nature, nous faisons l'expérience brutale de notre fragilité.
Oui, c'est effectivement le problème le plus cuisant et qui est expérimenté finalement à une échelle de plus en plus grande dans les milieux urbains. Parce que quand nous allons dans la nature, nous avons l'habitude et nous sommes d'une certaine façon acclimatés à être un peu plus petits que cette nature environnante. Et les animaux, il y a toute une littérature et une iconographie, nous peuvent nous inspirer même une certaine terreur. On ne se sent pas du tout le maître chez soi. Mais en ville, on n'est pas du tout habitué à cette expérience-là. Au contraire, la ville, c'est l'univers qui s'est protégé de la nature, qui s'est construit sans la nature, contre elle, qui s'en est séparé de toutes sortes de manières, à la fois, je dirais, matériellement et psychiquement. Et du coup, se retrouver face à un éléphant, un puma, un coyote, un serpent en ville, il paraît qu'il y a plus de serpents en ville que dans la nature aujourd'hui, là, ça provoque une espèce de retournement auquel je pense qu'on n'est pas du tout préparé.
Et ça arrive plus souvent qu'on ne le croit, et ça va arriver de plus en plus, si j'ai bien compris. Vous donnez plein de conseils pour savoir comment se comporter. Eh bien, si on croise la route d'un chien errant, d'un sanglier, d'un ours, d'un serpent ou d'un puma, il y a une constante, Joëlle Zask, c'est rester calme. Si on peut.
Rester calme, oui, il faut. Ce qui est assez frappant, c'est que les réflexes qu'on peut avoir face à l'irruption dans notre champ de vision ou dans le champ de perception d'un animal sauvage sont toujours les plus mauvais, en fait. Ils sont très, très mauvais conseillers. Comme si on n'avait pas vraiment d'instinct de survie adéquat par rapport à cette situation inédite, en fait. Mais ce qui est assez intéressant, c'est que c'est pareil chez les animaux, en fait. Les animaux ont beaucoup moins d'instinct qu'on ne pourrait le croire, et eux aussi apprennent à se conduire face à l'adversité, face aux dangers. Par exemple, les petits fauves apprennent de leur mère, ou les petites hyènes, apprennent de leurs parents, pendant d'ailleurs assez longtemps, comment se comporter face à un danger. Et ça ne s'improvise pas. Et nous, on a quand même le sentiment que on saura y faire, que de toute façon, on va dominer la situation, qu'on est sur notre territoire. Et en l'occurrence, rester calme, oui, la plupart du temps. Alors ça, c'est complètement contre-instinctif, en fait, parce que on aurait plutôt tendance, justement, à choisir la fuite plutôt que le combat, surtout s'il est nécessairement inégal. Mais voilà, c'est pas du tout la chose qu'il faut faire. Et donc, ce qui est assez frappant quand on étudie justement la question du comportement des bêtes sauvages agressives, c'est que rien ne va de soi. Il faut vraiment tout apprendre. Et l'instinct est très, très mauvais conseiller.
On apprend beaucoup de choses dans ce livre, et notamment que les corneilles sont très, très rancunières et que les éléphants ont un penchant pour l'alcool.
Ah oui, alors, bon, en ce qui concerne, il y a beaucoup d'histoires comme ça, mais qui relèvent à la fois de l'anecdote et de l'éthologie, en fait. Et les corneilles, effectivement, sont très nombreuses dans certaines villes. Il y en a pas mal, d'ailleurs, dans nos villes européennes et dans nos villes françaises. Et ces corneilles ont une mémoire d'éléphant, si je peux dire. Elles ont un sens de la famille et de la solidarité extrêmement développé. Elles font beaucoup de choses ensemble, y compris élever des petits, se reproduire, construire des nids, organiser des tours de garde, découvrir des lieux d'alimentation, etc. Mais ce qu'elles font aussi ensemble, c'est la défense. Et lorsque, par malheur, on s'en prend à l'une d'entre elles, même de manière tout à fait involontaire, par exemple, on peut être considéré comme responsable de la mort d'une d'entre elles, alors à ce moment-là, notre vie peut être transformée en enfer, parce qu'elles sont extrêmement rancunières, et en plus, elles ont une capacité de reconnaissance faciale tellement incroyable qu'elles peuvent même transmettre cette connaissance à leur descendance.
Alors ça, c'est incroyable.
Alors ça, c'est vraiment très frappant, oui. Donc attention, si votre route croise par exemple une petite corneille tombée du nid, surtout ne faites rien, n'y touchez pas. Et si vous passez à proximité de nids de corneille au moment de leur reproduction, alors à ce moment-là, attachez vos cheveux, portez un casque, si possible en dessinant des yeux à l'arrière du casque, parce que les corneilles vous prennent par surprise, elles vous harcèlent, elles ont la tactique du harcèlement. Et jamais. Par contre, si vous les regardez dans les yeux, ce qu'il ne faut pas faire avec d'autres animaux, par exemple un ours, faut surtout pas le regarder dans les yeux. Mais une corneille, si vous la regardez dans les yeux, elle va être complètement désorientée et elle aura affaire à une autre situation que celle qui est sa favorite, à savoir vous surprendre en vous frappant d'un grand coup de bec dans la nuque.
Alors pendant la période du confinement, Joël Zask, on a vu beaucoup de ces animaux sauvages prendre leurs aises dans les rues des villes désertées par leurs habitants, souvenez-vous.
Sur le bitume, il règne désormais en maître. Des animaux sauvages, pour qui le confinement des hommes signifie quartier libre. À Paris, il n'est plus rare d'apercevoir des canards fouler les pavés. Ou le périphérique. Partout dans les villes, la faune refait surface. Des sangliers dans les rues de Barcelone. Un puma égaré dans ce lotissement au Chili. Ou encore, ce mammifère tacheté du nom de civette, repéré en train de traverser sagement ce passage piéton en Inde.
Alors au-delà de l'aspect sympathique, dans le livre vous racontez aussi que certains animaux comme les rats, poussés par la faim pendant le confinement, à cause de la fermeture des restaurants, ont adopté des comportements déviants.
Oui, alors en fait les rats sont toujours là, les rats sont là depuis d'ailleurs des siècles et quelles qu'aient été les méthodes qu'on a utilisées pour les repousser, on n'y est jamais parvenu. Donc ça je crois que c'est une autre donnée qui est assez importante, idem avec les moustiques par exemple. Mais les rats font surface à partir du moment où ils sont privés de leur subsistance habituelle, notamment la fermeture des restaurants a provoqué la famine des rats qui sont devenus particulièrement agressifs et on a des cas... assez affreux de gens attaqués par des rats, en particulier des égoutiers qui ont subi des attaques de ce genre. Donc ce qui m'intéressait dans cette affaire-là, c'est aussi que on pourrait penser que les animaux ont une peur naturelle de l'homme, mais c'est complètement faux. Donc ils ont une prudence qu'ils acquièrent, qu'ils ont apprise face à l'adversité humaine ou à la sauvagerie humaine. Mais à partir du moment où nous devenons un peu soit impuissants, soit doux avec eux, soit que nous les attirons dans notre antre, que nous les attirons en leur donnant à manger, que nous tentons de faire copain-copain avec eux, alors à ce moment-là, ils perdent absolument tout réflexe de fuite, d'une part, et d'autre part, s'ils ont faim, ils vont faire comme n'importe quel être vivant, c'est-à-dire qu'ils vont lutter pour survivre.
Et ils nous observent. Et ils sont prêts. Ils nous observent beaucoup plus qu'on ne le croit. Ça, c'est quand même l'aspect
oui,
un peu...
Oui, c'est aussi un aspect absolument fondamental qu'on omet sans vouloir... disons être animaliste et sans vouloir passer d'un anthropocentrisme à un animalocentrisme, le fait est que il y a disons des formes d'acclimatation, d'ajustement des animaux à nos propres comportements qui sont d'une subtilité absolument incroyable. Et donc observer les animaux qui nous observent, ça c'est quelque chose qui est extrêmement instructif et qui nous fait nous décentrer par rapport à l'idée que l'humain est une statue indéboulonnable, ce qui est faux. Et d'autre part, qui nous fait aussi comprendre que nous n'inspirons aucune peur naturellement aux animaux et que ceci pourrait bien se retourner contre nous si tel est leur besoin et si nous leur permettons de le faire.
Il y a un aspect que vous évoquez au sujet de l'ours, qui est l'une des espèces les plus emblématiques de cette crise écologique, confrontée à la destruction de leurs espaces naturels et à la sécheresse qui affecte la production des glands et des fruits sauvages dont ils se nourrissent. Ils viennent de plus en plus souvent en ville pour y chercher la nourriture qui est nécessaire à leur survie. Dès lors, la confrontation avec l'homme est inévitable. Elle tourne rarement, évidemment, à notre avantage. On apprend que les ours, qui sont des êtres imprévisibles et singuliers, sont comme nous. Il y a des timides, il y a des téméraires, il y a même des tueurs en série. Et vous nous apprenez, alors ça, j'en revenais pas, qu'en Californie, il y a maintenant des enquêtes juridiques qui sont menées pour déterminer si l'ours qui a attaqué un humain peut être jugé coupable et euthanasié.
Oui, c'est très intéressant parce que c'est une évolution qui d'ailleurs se poursuit au Canada, à savoir que maintenant les gens sont prévenus de ce qu'il faut faire pour éviter qu'un ours ne les attaque. Mais si une personne n'a pas fait tout ce qu'il fallait faire pour éviter une attaque de ce genre, alors à ce moment-là, le réflexe habituel, ou disons l'habitude qui consiste à euthanasier l'ours coupable d'une blessure, ou voire d'un meurtre, si on peut dire, là, il est vraiment mis en question. Il est mis en question parce que les gens, finalement, peuvent être considérés comme responsables de l'attaque qu'ils ont subie. Et c'est vraiment une évolution juridique qui est extrêmement intéressante, qui est un peu parallèle à la reconnaissance du crime d'écocide, en fait, et qui va un peu dans le même sens, à savoir que même si on n'a pas, il n'est pas nécessaire de reconnaître à l'ours un droit, mais par contre, il est nécessaire de reconnaître à certains d'entre nous une responsabilité quant au développement de l'agressivité d'animaux vis-à-vis de nous. Et en fait, on pourrait la placer à plusieurs niveaux, cette agressivité, c'est-à-dire que d'une part, on pourrait reconnaître notre responsabilité dans la destruction des habitats naturels des animaux, ce qui explique qu'ils se précipitent en ville pour y trouver de quoi survivre, mais également d'interroger, même de criminaliser, je peux dire, le geste qui consiste à leur donner à manger, c'est-à-dire à vouloir former avec une grande famille, à les considérer comme nos semblables, et finalement à leur faire preuve de nos bons soins et de notre commisération. Donc les deux attitudes sont très très problématiques, et finalement elles sont toutes les deux à criminaliser en quelque sorte. Et par exemple, quelqu'un qui laisse des croquettes à l'extérieur pour son chien, qui omet de rentrer cette nourriture pour animaux domestiques dans sa maison, et disons doit s'attendre dans certaines régions. Et c'est vrai de l'Asie du Sud-Est, c'est vrai de toute l'Europe de l'Est, c'est vrai aussi de l'Amérique du Nord. Il devrait être prêt à s'attendre à une visite d'ours.
Face à une bête sauvage, c'est le titre de ce petit livre vraiment passionnant que vous signez, Joël Zask, aux éditions Premier Parallèle, qui nous invite donc à repenser en profondeur notre relation aux animaux sauvages, avec qui nous serons bien obligés de cohabiter, et sans doute de plus en plus. Dernière question qu'on pose tous les soirs ici à nos invités: quel est selon vous l'objet du futur, ou l'objet qui manque au futur?
Alors je pense que c'est un objet qui est pas exactement un objet, qui est un coin de terre. Un coin de terre, c'est-à-dire un coin où non pas avoir sa propriété, un coin qui n'est pas destiné à être approprié, mais un coin où vivre, un coin où se poser, un coin où accumuler des souvenirs, un coin où projeter un avenir. Et c'est justement ce que sont en train de détruire les feux de forêt. J'ai envie de conclure comme ça, c'est que le feu de forêt, qu'on en parle beaucoup en ce moment, mais on se rend pas compte que précisément, enfin, ou pas suffisamment peut-être, que précisément le feu de forêt ne détruit pas seulement la nature, il détruit vraiment notre rapport à la nature, c'est-à-dire ce qu'on pourrait appeler notre paysage. Et ce paysage, il est à la fois géographique, matériel, et tout à fait imaginaire et psychologique.
Et vous êtes également l'auteur d'un ouvrage sur le sujet intitulé « Quand la forêt brûle » aux éditions Premier Parallèle. Merci beaucoup.
Je vous remercie aussi.
Sur ma peau, poisson dans l'eau, qui ne rêve qu'à s'unir pour survivre, tes lèvres à moitié chaudes promettent des choses.
Vie, titre du premier album Tristesse d'Iliona, sorti en février dernier.
Un monde nouveau. Sonia Quironi sur France Inter.
Et on continue d'écrire le monde nouveau sur France Inter avec Manon Chapelain. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes journaliste à La Croix, l'hebdo, le magazine qui prend le contre-pied de l'actu chaude pour offrir un temps long et des raisons d'espérer. Et François Moreau, journaliste aux Inrocs. Bonsoir. Bonsoir à vous, François.
Bonsoir.
On commence avec Manon. Manon, on a eu l'occasion d'en parler ici même, hein, récemment, avec Enki Bilal et Alain Damasio, deux de nos plus grands auteurs et dessinateurs de science-fiction. La réalité est venue ces derniers temps rattraper certains de leurs scénarios futuristes. Les auteurs de science-fiction seraient-ils devenus les oracles de notre époque? Vous nous parlez ce soir, Manon, d'un collectif d'auteurs de science-fiction, la Red Team, qui travaille avec le ministère des Armées.
Les années 2020 voient le déploiement d'une nouvelle génération de réseaux de services, véritables bulles numériques communautaires, les safe spheres. Elles adaptent la perception du monde extérieur à la réalité que chacun veut lui donner.
Imaginez, Sonia, un monde où chacun puisse se retrancher dans l'univers de son choix grâce à des patchs qui se collent sur la peau. Si vous avez déjà vu Ready Player One de Spielberg, ça fait un peu penser à l'Oasis. Mais ici, la planète est divisée en 6 sphères, des zones de sûreté. C'est un peu comme si vous viviez dans votre algorithme Facebook ou Instagram, un endroit où vous pouvez choisir ce qui vous entoure en fonction de vos croyances ou de vos espérances. Dans le scénario de la Red Team, il y a plusieurs communautés qui existent, par exemple celle de la méditation ou de la heavy metal. Alors l'avantage, c'est qu'il n'y a plus de conflits sociaux, c'est un monde aseptisé, mais les choses se corsent le jour où une attaque bioterroriste survient et qu'un méchant virus se propage à grande vitesse sur la planète. Ça, on connaît. Là, le problème, c'est que tout le monde est dans sa propre bulle, personne ne veut en sortir, l'armée doit intervenir.
Et alors, qu'est-ce que ce scénario de science-fiction vient faire au ministère de la Défense?
Alors, ça peut paraître un peu surprenant, mais depuis fin 2019, le gouvernement travaille avec une dizaine d'auteurs et d'autrices de science-fiction pour essayer d'imaginer le futur. C'est l'Agence de l'innovation de défense, l'AID, qui a lancé ce programme unique en Europe sur le modèle de ce qu'avait fait le Pentagone dans les années 70. On y retrouve des auteurs connus comme Laurent Jeunefort, auteur du Cycle d'Aumale, ou encore Xavier Mauméjean. Il travaille en collaboration avec l'université Paris Sciences et Lettres afin d'être le plus précis possible dans les données scientifiques qu'ils utilisent, mais aussi avec le ministère des Armées, donc, qui leur donne accès à des informations confidentielles. Donc la conséquence, c'est qu'une partie des textes est cadenassée. L'équipe, elle est tenue au secret défense. Deux saisons sur les quatre attendues sont déjà accessibles sur le site de la Red Team. La dernière est sortie début juillet. Donc vous pouvez y aller faire un tour, hein. Vous verrez, c'est très inspiré des jeux vidéo, très interactif. Il y a des graphismes aux allures de Marvel, on peut lire des articles fictifs venus du futur ou encore voir de faux témoignages. Tout ça pour une dépense gouvernementale de 2 millions d'euros tout de même.
Mais on est d'accord, Manon, le gouvernement ne pense pas pas vraiment que ce scénario va se dérouler ?
Non, le but ici, c'est plus d'imaginer des situations géopolitiques, démographiques ou technologiques auxquelles l'armée n'aurait pas pensé et qui pourraient la mettre en difficulté. Tout ça grâce à la science-fiction. On est dans la lignée de la prospective qui était déjà utilisée jusqu'ici pour faire des recommandations politiques à partir de diagnostics sur le futur. Mais là, l'avantage avec la science-fiction, c'est qu'on s'autorise à aller beaucoup plus loin, l'horizon 2030-2060, et à s'imaginer des scénarios beaucoup plus fous.
Et si ce scénario venait à se réaliser, ce ne serait pas la première fois que la réalité rattraperait la science-fiction.
C'est vrai que la politique et la science-fiction, ce n'est pas si éloigné. Je pense qu'on l'a tous un peu ressenti avec la pandémie. En fait, d'un côté, la science-fiction, elle s'inspire du réel. Elle va prendre une situation pour l'augmenter, la déformer, en faire un récit un peu fou. Et de l'autre, elle influence l'imaginaire collectif en créant chez nous une attente à partir d'une situation précise. Concrètement, si on prend le monde d'après auquel nous avons tant fait référence durant le premier confinement, eh ben en fait, ça vient directement de la science-fiction. Dans les récits, tous les effondrements sont suivis d'une reconstruction totale de la société. Alors, pour l'instant, c'est plutôt resté dans les livres. On attend toujours le grand basculement vers le monde d'après. La chercheuse en littérature comparée Clémentine Hoog part même à ce sujet d'un monde de fin sans fin, créant chez nous une certaine frustration.
La science-fiction, parfois plus proche de la réalité qu'on ne le croit. On peut le lire également dans l'un de vos dossiers consacrés aux nouvelles technologies funéraires à retrouver sur le site de La Croix l'Hebdo. Merci beaucoup Manon. François Moreau, avec vous maintenant, on va parler de TikTok, ce réseau social qui est devenu absolument incontournable pour les musiciens d'aujourd'hui.
TikTok a franchi la barre symbolique des 3 milliards de téléchargements à travers le monde, ce qui en fait l'application la plus téléchargée aujourd'hui. Le fait que TikTok soit particulièrement populaire chez les jeunes rend le potentiel viral des vidéos qui y sont postées en flux continu d'autant plus grand. Les utilisateurs de TikTok sont particulièrement engagés sur ce réseau, avec notamment un engagement émotionnel très fort, en tout cas plus fort que sur les réseaux sociaux plus anciens, désertés par les 15-24 ans. C'est ainsi qu'on a pu voir un Lil Nas X, jeune musicien afro-américain de 22 ans, connu pour son hit country rap Old Town Road, devenir extrêmement populaire avant même de signer sur une major de disques, à savoir Columbia Records.
TikTok qui peut donc révéler de jeunes artistes et les rendre très populaires, mais qui peut aussi mettre en lumière des artistes méconnus, des plus jeunes ou plus confidentiels.
Absolument. Juste avant Noël dernier, la musicienne londonienne Bibadoubi, évoluant dans les sphères de l'indie rock et très suivie outre-Manche, s'est mise en scène en train de lip-sync, c'est-à-dire de faire du playback en somme, les paroles d'une chanson intitulée The Lean Over, d'un groupe écossais inconnu du grand public mais culte chez les fans de rock indépendant, qui s'appelle Life Without Buildings. Ce groupe n'a sorti qu'un seul album dans sa carrière en 2001 et est passé en l'espace de quelques semaines et grâce à cette vidéo de 30 000 auditeurs sur les plateformes Spotify à plus de 200 000 auditeurs par mois. De la même manière, mais dans un registre plus classique rock, le titre Dreams de Fleetwood Mac est revenu en octobre dernier dans le Hot 100 Billboard qui comptabilise chaque semaine les 100 morceaux les plus populaires aux États-Unis après qu'un skateur très suivi ait posté une vidéo de lui avec cette chanson en fond sonore.
Et quel est l'enjeu alors François pour des artistes comme Fleetwood Mac de voir leur chanson comme ça devenir virale sur TikTok ?
Alors l'enjeu, c'est que tout le monde connaît les vieilles gloires des 60s et des 70s, de Fleetwood Mac à Bob Dylan, mais les performances de ces artistes sur les plateformes de streaming sont très faibles comparées à celles d'artistes plus contemporains, comme The Weeknd, qui franchit sans difficulté la barre des 1 milliard d'écoutes pour un seul single en très peu de temps. Quand une vidéo sur un titre de Fleetwood Mac devient virale sur TikTok, ça a des répercussions directes sur les plateformes de streaming, où ces artistes gagneront de nouveaux auditeurs en se retrouvant dans diverses playlists très écoutées par les plus jeunes. C'est une autre façon de rendre pérenne un catalogue de chansons déjà très prestigieux. Les investisseurs ne s'y sont d'ailleurs pas trompés. Les nouveaux acteurs, pas toujours issus de la musique, rachètent en ce moment des catalogues entiers d'artistes iconiques en misant sur cette pérennité nouvelle.
Et alors du coup, les artistes et l'industrie musicale ont-ils développé des stratégies particulières sur cette application ?
Bien sûr, elle se met en branle. L'industrie est darwiniste. Elle a très bien compris que de ne pas s'adapter aux évolutions des usages, c'est mourir. Récemment, on apprenait par exemple qu'Universal Music, l'une des plus grosses majors du disque, avait signé un deal permettant à l'application de disposer du catalogue audio audio et vidéo de la major. Les artistes, quant à eux, ne cessent d'interagir avec leur communauté en proposant des challenges, par exemple. C'est comme ça, d'ailleurs, qu'un artiste comme Lil Nas X s'est fait connaître. En jouant de la viralité extrêmement rapide permise par TikTok et sur l'engagement de sa communauté, les indépendants, quant à eux, ne manquent pas l'occasion de rééditer certains artistes dont on ne trouvait plus les vinyles, comme ce fut le cas récemment pour Live Without Buildings.
Merci beaucoup François Moreau pour ces explications. Journaliste musique au magazine Les Inrocuptibles, dont je rappelle que le numéro de l'été, hein, le numéro sexe, est toujours en kiosque en attendant la sortie du prochain numéro. Ça sera le 25 août prochain. Et merci à vous Manon Chaplin, journaliste à La Croix l'Hebdo. Elle est Hélène dans le dernier film magnifique de Daniel Armide, Passion simple, adapté du roman d'Annie Ernaux et présenté en sélection officielle au Festival de Cannes l'an dernier. Laetitia Doche et la réalisatrice Daniel Armide sont nos invités ce soir. Bonsoir à toutes les deux.
Bonsoir.
Bonsoir.
La dépendance peut-elle être choisie? Est-ce une forme de faiblesse ou au contraire de luxe? Peut-on être librement soumise? Toutes ces questions passionnantes et bien d'autres encore, on va les évoquer avec vous dans quelques instants. Mais d'abord, en quelques mots, dans quel état d'esprit êtes-vous ce soir toutes les deux alors que le film est enfin sorti hier au cinéma après presque 4-5 années d'attente, c'est ça Daniel Armide?
Oui, bah on est c'est comme une
un accouchement,
enfin, des vacances après tant de travail, mais on est très heureux, enfin je suis très heureuse et puis il fait tellement beau et je me dis que c'est pas grave qu'il fasse beau, au contraire ça donne aussi, c'est un film lumineux et puis il y a de la lumière partout.
Et ça donne envie d'être amoureux. Allez voir.
Exactement.
Passion simple au cinéma. Le film s'écoute avec autant de bonheur qu'il se regarde. Alors on va pas se priver de s'écouter un extrait de la bande originale pour commencer. The Flying Pickets, Only You.
A story of a can you hear me? Came back only yesterday, moving further away. Won't you hear me? All I needed was the love you gave. All I needed for another day. And all I ever knew, only only a game, and I need you. Listening to the words that you say, it's getting harder to stay. When I see you, all I needed was the love you gave. All I needed for another day. Ba-da-da-da, ba-da-da-da.
1984, Only You, The Flying Pickets, extrait de la bande originale de Passion Simple, le dernier film de Daniel Arbid, librement adapté du roman d'Annie Ernaux, sorti en 1992. L'histoire d'une femme qui s'abandonne entièrement à son désir pour un homme. Il est russe, il est marié, il aime Vladimir Poutine. Elle est prof de lettres, divorcée, elle a une dizaine d'années de plus que lui et elle va s'engager corps et âme dans cette passion, quitte à délaisser son propre fils et son travail. Laetitia Doche est renversante dans ce rôle de femme follement amoureuse qui ne vit plus que pour l'instant où cet homme va venir la retrouver. Daniel Arbid filme magnifiquement cette attente fiévreuse, la passion qui se niche dans le moindre petit détail de nos quotidiens et les corps à corps brûlants. Elles sont toutes les deux nos invitées ce soir. Daniel Arbid, Passion Simple est votre cinquième long métrage. Le premier qui n'aborde pas de près ou de loin la question de vos origines libanaises. Pourquoi est-ce que vous avez eu envie de vous emparer de cette histoire-là, de porter le roman d'Annie Ernaux à l'écran, celui-là?
Parce que c'est un hommage, en quelque sorte, à son courage. Parce que je trouvais que c'est très rare de lire un récit aussi précis, aussi frontal, d'un abandon. C'est une lettre d'amour ouverte, en fait, d'une certaine manière, à cet homme-là, mais adressée à lui, mais adressée à tous les amoureux. Et oui, essentiellement, ce qui m'a frappée, c'est le courage de cette femme avant l'histoire d'amour. Parce que c'est pas vraiment une histoire d'amour, c'est une sorte de listes de choses qu'elle faisait quand elle était passionnément amoureuse de cet homme, comment elle a vécu exactement ces moments-là. Elle a presque fait un inventaire, en fait. C'est pas une histoire d'amour à chaud, c'est après coup. En plus, elle dresse ces moments-là comme enfin, elle les ressasse peut-être dans le livre, enfin, elle les a tellement ressassés qu'elle les met sur papier, et puis elle les met de manière tellement précise. Alors qu'elle était asservie, cet homme, en fait. Et elle n'a pas eu honte, jamais. Elle dit d'ailleurs, c'est le seul moment de sa vie où elle n'avait pas honte. C'est très courageux, je trouve. Et c'est très digne. Enfin, c'est, voilà. Et pour moi, c'était cette figure de femme que je voulais raconter. Une femme, une héroïne puissante.
Dans le film, Laetitia Doche, vous donnez tout. Vous vous abandonnez entièrement à ce personnage de femme qui va laisser son désir la gouverner entièrement. Vous saviez que vous aviez ça en vous ?
Ouais, je savais, ouais. Mais je me demande qui ne le sait pas, qu'on a cette façon d'aimer qui peut nous dépasser en nous. Je pense qu'on est tous à le savoir, on est tous à le planquer, parce qu'on connaît les conséquences aussi. Et c'est vrai que c'est ça qui est très beau tout d'un coup. C'est quand même ce film, c'est quand même une apologie de ce genre d'amour. Peut-être qu'on y laisse un peu des plumes, mais on redécouvre sa force, on redécouvre son désir. Tout d'un coup, nos convictions sont fragilisées. Et comme on est dans une période où qui nous fragilise beaucoup, tout d'un coup, ça redonne de la lumière, je trouve, à des moments fragilisants. Le fait de perdre pied, ça peut être aussi un truc chouette. Et voilà, c'est pour ça que je le trouve très beau.
On écoute tout de suite un extrait de la bande-annonce. Parara, parara, parara,
parara. À partir du mois de septembre de l'année dernière, je n'ai rien fait d'autre qu'attendre un homme qui me téléphone, qui vienne chez moi. On est très différents, quoi. Il aime les costumes Dior, les grosses voitures, les navets américains et Poutine.
Bonjour. La personne que vous essayez de joindre n'est pas
dit. Il est marié, il va retourner dans sa Russie.
Et c'est qui ce mec ?
Il n'y a pas de mec. J'essayais devant les autres d'être normale, de ne rien laisser transparaître et rythmer ma vie. J'ai mesuré le temps en fonction de lui. Je suis même allée à Moscou pour quelques heures pour sentir l'air qu'il respire.
C'était bien.
Ouais. Sans qu'il le sache, cet homme, il m'a relié davantage au monde.
Extrait de la bande-annonce de Passion Simple, le dernier film de Daniel Arbit, sorti hier en salle avec Laetitia Doche et le magnétique Sergueï Polounine, ex-danseur étoile du Royal Ballet de Londres, qui incarne donc Alexandre, ce jeune russe dont Hélène va tomber éperdument amoureuse au point de tout abandonner, ou en tout cas de ne plus vivre que pour lui et que pour ces moments où elle va pouvoir le retrouver, jusqu'à prendre, on l'entendait dans la bande-annonce, un avion pour Moscou, pour pouvoir sentir l'air qu'il respire. Cette obsession, cette dépendance, qui sont souvent des sentiments qui sont présentés comme honteux, en particulier pour une femme. Vous, au contraire, Daniel Arbit, vous avez choisi de les magnifier.
Oui, parce que comme je disais, c'est une femme qui a fait de sa faiblesse une force, Annie Ernaux. Et je trouve qu'il n'y a rien de plus puissant dans la vie que quand on se sent faible, de ne pas le cacher, de l'afficher, d'aller au bout et d'en faire une force. C'est un peu ma façon de penser. Je sais qu'aujourd'hui, on a tendance un peu trop à penser que les relations doivent être rassurantes, une relation d'amour doit être rassurante. C'est pas ce genre de relation où on s'expose, où on se met en risque, qui est courant. C'est presque d'un autre des années 80, 90, on se mettait encore plus. Mais là, les relations doivent être ouvertes, respectueuses, rassurantes. Et il y a tellement de gens qui souffrent de pas avoir ce genre de relations rassurantes dans leur vie, dans leur intimité, qu'ils vivent des choses comme ça, où ils perdent leurs moyens et qui se sentent à côté. Et on a tous envie de se mettre en risque, en fait, de souffrir presque par amour, de se sentir vivant. Et c'est ça ce que j'aime, dans ce livre, et ce que j'ai voulu faire à travers le film, raconter en tout cas, oui.
Ce parti pris d'une femme qui accepte sa dépendance, il avait déjà valu à Annie Ernaux en 92, à la sortie du livre, certaines incompréhensions, hein, voire des critiques, et il résonne sans doute encore davantage aujourd'hui. Et vous l'illustrez en particulier dans une scène qu'on va écouter, une scène que vous avez écrite et imaginée, puisqu'il n'y a pas de dialogue dans le livre d'Annie Ernaux. Hélène dîne avec son amie qui tente de la raisonner.
Mais elle attend plus. Pourquoi tu l'attends? Tu passes ta vie à l'attendre.
Je sais pas. En même temps, qu'est-ce que j'ai à faire d'autre?
Je sais pas, mais tu veux que je te dise ce que je pense, en fait? Je crois que les hommes, quand ils obtiennent ce qu'ils veulent, quand ils tombent à la botte, ils paniquent et alors ils deviennent méprisants. Moi, c'est ce que je pense de ton mec. Et je pense ça du mien aussi. Sauf que le mien, jamais, il aura le courage de partir, lui. Mais tu vois tout ce qui se passe en ce moment, c'est magnifique, c'est féministe, qui crie. Elles ont raison, moi, je les soutiens. Ça fait des siècles qu'on attend d'avoir une voix. Tu crois quoi? Dépendre d'un homme pour jouir, pour vivre? Ça veut dire qu'on dépend de tout, c'est insupportable.
Laetitia Doche, c'est vrai que ça n'apparaît pas très moderne, cette dépendance totale d'Hélène qui confine à la soumission. Vous la voyez, vous, comme une femme soumise, Hélène?
Mais c'est drôle, en vous écoutant parler tout à l'heure, je me disais en fait, est-ce qu'il ne faudrait pas renoncer à être assurée? Peut-être que si tout le monde renonçait à être assuré, se disait oui, c'est impossible d'être assuré, peut-être les gens tenteraient des trucs, et peut-être les gens seraient plus heureux, je sais pas. Enfin, moi, hein, je me suis posé la question à moi-même. Donc, je dirais pas que je la vois soumise, non, je la vois, en attente, donc elle est en demande. Mais quand même, quand on est en demande, ce qu'on découvre, c'est ce qu'on désire, ce qu'on veut. Et c'est pas toujours facile de trouver ce qu'on veut, de sentir ce dont on a vraiment envie. Moi, par exemple, dans la vie, j'ai du mal. C'est tout un travail. Donc, peut-être c'est une soumission. Mais moi, je m'en fiche de ça. Je trouve que c'est d'abord une partie de soi qu'elle découvre qui est forte, qui avait l'air de dormir depuis un bon petit moment. Mmh. On la voit qui vient de divorcer. Et tout d'un coup, il y a une espèce de fenêtre qui s'ouvre. Bon, il y a des grands coups de vent, mais au moins ça s'ouvre.
Et cette question, elle reste intacte 29 ans après la sortie du livre. Est-ce qu'on peut choisir librement d'être dépendante, d'être soumise, Daniel Arbit?
Oui, absolument. Je me suis pas posé la question, à vrai dire, du féminisme ou pas. Enfin, je veux dire, j'aurais fait le même film avant ou après Me Too, personnellement. Parce que moi, pour moi, ce livre raconte la voix d'une femme libre, indépendante, qui choisit elle-même. Je veux dire, c'est pas lui qui lui demande de l'attendre, c'est elle. Elle décide elle-même. Et puis, voilà, qu'est-ce que le féminisme à part regarder, avoir la tête haute et dire ses faiblesses? C'est ça le féminisme pour moi. C'est pas se cacher et avoir honte de ce qu'on a vécu. Et on peut pas s'empêcher de le vivre, cet élan d'amour passionnel. Je le souhaite à tout le monde, personnellement. Ce serait triste d'avoir une vie sans passion.
Oui, mais ce qui est drôle quand même, c'est que là, vous nous parlez beaucoup, enfin les journalistes nous parlent beaucoup du fait qu'on est peut-être pas très féministe, enfin, ou que ce film pose des questions sur le féminisme, alors que quand il est sorti, c'était beaucoup les critiques hommes qui déboulonnaient ce livre. C'est assez rigolo, je sais pas pourquoi. Et le fait qu'on parle de sexe, eux disaient que c'était pas intéressant, mais d'une façon très violente, ça a dégagé... créer beaucoup de violence chez les critiques hommes.
Alors quand je dis que vous vous livrez entièrement, Laetitia Doge, c'est au sens figuré comme au sens propre, puisque vous apparaissez souvent nue dans le film, comme votre partenaire, hein, d'ailleurs. Là, il y a égalité.
Moitié.
Ouais. Il y a beaucoup de scènes de sexe. La nudité ne vous fait pas peur. On le sait depuis Hate, le spectacle que vous aviez créé en 2018, où vous étiez sur scène presque entièrement dénudée pour confier vos doutes sur l'univers.
J'avais une banane,
à un
c'est
cheval.
Vrai.
Ouais. On connaît votre liberté. Est-ce qu'avec ce film, vous avez eu le sentiment de repousser encore certaines de vos limites?
En fait, la vérité, c'est que j'ai très peur d'être nue. Moi, j'aime pas me baigner à la plage, par exemple. Je suis très complexée.
Ah oui.
Donc, c'est un travail que je fais pour être plus libre, pour me battre contre moi-même.
D'accord.
Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai continué. Bah, là, j'aimerais bien arrêter un peu. Je trouve que là, je commence à dépasser un certain stade. C'est bon.
Danielle Arvide, vous êtes une réalisatrice qui aimait filmer les corps. Les scènes de sexe, elles n'étaient pas dans le livre. Pourquoi c'était important pour vous qu'elles existent dans le film?
Pour montrer l'objet de la l'objet du fantasme, en fait. Donc, pour montrer ces moments que dans le livre, on peut fantasmer la présence de cet homme. Elle l'ellipse. Bon, on a dit chacun fantasme. Enfin, on a une idée virtuelle, mais sur l'image, quand on fait vraiment un film, il a fallu quand même qu'on le voit. Mmh. Et si on le voit, c'était à travers le sexe, parce que en fait, cet homme ne vient que pour ça. Il ne vient pas pour discuter. Il y a très peu de paroles entre eux. Elle me disait ça, Annie Arnaud. Il ne vient pas... ils ne font pas des choses ensemble. Ils ne vont pas au cinéma. Ils ne vont pas faire des courses. Ou je ne sais pas. Ils ne partagent rien à part ces moments fermés, comme ça, le soir ou l'après-midi, où c'est un corps à corps assez fulgurant. Dans mon fantasme en fait du livre, et du coup j'ai essayé à travers le film de mettre en scène ces moments-là, et moi j'aime beaucoup filmer les corps et filmer les relations charnelles, parce que j'ai l'impression que c'est ce qui définit exactement le cinéma, c'est de la lumière et du mouvement, et de rendre les acteurs désirables, parce que quand j'étais petite, tout ce que j'adorais, c'est d'aller au cinéma regarder les gens s'embrasser. Et depuis, je trimballe ce goût pour le romantisme un petit peu. Du coup, j'ai envie que les spectateurs, quand ils vont voir mon film, se projettent et envie en fait de vivre des moments comme ça.
Ben c'est réussi. Merci beaucoup Danielle Arvide et Laetitia Doge. Allez voir Passion simple, c'est beau comme l'amour et le désir. Je précise également que dans Les Champs de bataille, le film que vous avez réalisé, Danielle Arvide, en 2004, est disponible actuellement sur RT TV jusqu'au 31 août dans le cadre du cycle Sexe, Amour et Séduction. Un monde nouveau, c'est déjà fini. C'est toute une équipe. Gaëtan Collier à la réalisation, Marie Mougin et Mathias Volant à la programmation et la préparation de l'émission, et les indispensables Lily Cornillac et Anaïs Dinarc à la technique ce soir, Clément Juillet. On se retrouve demain avec le spationaute Michel Tonini et la chanteuse béninoise Angélique Kidjo. Après le journal de 19h, vous retrouvez Le Téléphone Sonne avec Marion Lourd. Ce soir, téléphone portable, un espion dans nos poches.
Tu m'étonnes.